Autorisation spéciale de la commission du même nom, la Java des bombes atomiques.
Mon oncle, infâme bricoleur, faisait en amateur des bombes atomiques. Sans avoir jamais rien appris, c'était un vrai génie, question travaux pratiques. Il s'enfermait toute la journée au fond de son atelier pour faire ses expériences. Et le soir, il rentrait chez nous et nous mettait en transe en nous racontant tout. Pour fabriquer une bombe à mes enfants, croyez-moi, c'est vraiment de la tarte. La question du détonateur se résout en un quart d'heure, c'est de celle qu'on écarte. En ce qui concerne la bombache, c'est pas beaucoup plus vache, mais une chose me tourmente, c'est que celle de ma fabrication n'ont qu'un rayon d'action de 3,50 m. Il y a quelque chose qui cloche là-dedans, j'y retourne immédiatement. Il a bossé pendant des jours, tâchant avec amour d'améliorer le modèle. Quand il déjeunait avec nous, il dévorait d'un coup sa soupe au vermicelle. On voyait à son air féroce qu'il tombait sur un os, mais on n'osait rien dire. Et puis un soir, pendant leur repas, la tonton qui soupire et qui s'écrit comme ça. À mesure que je deviens vieux, je m'en aperçois mieux, j'ai le cerveau qui flanche. Soyons sérieux, disons le mot, c'est même plus un cerveau, c'est comme de la sauce blanche. Voilà des mois et des années que j'essaye d'augmenter la portée de ma bombe. Et je ne me suis pas rendu compte que la seule chose qui compte, c'est l'endroit où ce qu'elle tombe. Il y a quelque chose qui cloche là-dedans, j'y retourne immédiatement. Sachant proche le résultat, tous les grands chefs d'État lui ont rendu visite. Il les reçut et s'excusa de ce que sa cagna était aussi petite. Mais sitôt qu'ils sont tous entrés, il les a enfermés en disant « Soyez sages ». Et quand la bombe a explosé, de tous ces personnages, il n'est plus rien resté. Tonton, devant ce résultat, ne se dégonfla pas et joua les andouilles. Au tribunal, on l'a traîné et devant les jurés, le voilà qui bafouille. Messieurs, c'est un hasard affreux, mais je jure devant Dieu, comme mon âme et conscience, en détruisant tous ces tordus, je suis bien convaincu d'avoir servi la France. On était dans l'embarras, alors on le condamna et puis on l'amnistia. Et le pays reconnaissant l'élu immédiatement chef du gouvernement.
Bonsoir, chers auditeurs. Vous êtes sur Radio Libertaire de l'Union Pacifiste, l'émission contre la guerre et contre tous les militaires de la planète, de 18h à 19h30. Notre émission s'appelle « Si vis pacem », « Si tu veux la paix ». Nous disons aujourd'hui « Prépare la paix ».« Si tu veux la paix, prépare la paix ». Et vous pouvez nous appeler pendant les plages musicales au studio au 01 43 71 89 40. Et je vous présente aujourd'hui l'équipe avec une magnifique invitée, une poétesse qui s'appelle Mona Gamal
El-Din,
qui va nous lire plusieurs de ses magnifiques créations poétiques. Et avant de vous la présenter plus en détail, donc je vous présente l'équipe. Ariel, aux manettes.
Toujours prêt.
Elsa, co-animatrice.
Bonjour Suzanne, bonjour papa, bonjour Mona, et bonjour chers auditrices et auditeurs.
Et je vous souhaite une très bonne écoute. Vous aurez donc à la fois de la poésie et de l'information très encourageante pour que vous vous mettiez dans l'action. Voilà. Donc Mona, bienvenue de vous être. Merci de vous être déplacée dans notre émission. Vous êtes une ardente défenseur de la paix et nous sommes très assoiffés de vous écouter.
Merci Suzanne. Merci Ariel, merci Elsa, et je suis vraiment en bonne compagnie, hein. Je n'ai pas peur. Et je veux te dire quelque chose, que nous sommes les poètes pour la paix. Mon association, les rencontres des poètes pour la paix.
Tout à fait. Vous avez eu des prix, un prix international de de poésie qui porte le nom du célèbre Léopold Sédar Senghor en 2020.
J'aime beaucoup.
Voilà, vous êtes membre du Pen Club, de la Société des Poètes Français, président de l'association Isis, Arts et Culture, et encore plein d'autres intitulés magnifiques qui honorent vos créations pour la paix.
Membre de l'Académie Arts, Sciences et Lettres, j'ai eu aussi pour un de mes recueils le prix Bronze.
Oui, vous êtes docteur en sciences des arts et prix de la Sorbonne, un prix international aussi. Merci beaucoup.
C'est beaucoup de travail, beaucoup, beaucoup de travail et il faut continuer.
On a besoin de vous.
Merci.
Ce sont des messages qui nous dynamisent et qui font qu'on ne baisse jamais les bras. On lâche rien.
J'espère. Oui. Je souhaiterai.
Alors, est-ce que vous voulez déjà lire un de vos poèmes ou est-ce que vous préférez que Elsa lise un édito ou...
Un édito, c'est mieux aussi. C'est mieux, une bonne idée.
D'accord.
Chère Elsa.
Merci. Alors, voici l'édito du journal, je vous prie de m'excuser, Planète Paix. Du mois de mars, écrit par Yves-Jean Gallas. Désinformation. On attribue à Rudyard Kipling, un militaire, le constat, la première victime d'une guerre est la vérité. Le livre et l'exposition d'Anne Morelli sur les 10 commandements de la propagande de guerre illustrent cette réalité. Et l'exemple de la guerre d'Ukraine les enrichira certainement. Lors des premiers mois de cette guerre, il y a un an, il était facile pour les va-t-en-guerre de cacher les faits, récents ou non, ayant provoqué l'invasion condamnable en soi de l'Ukraine par la Russie. Mais ces dernières semaines, sa préparation depuis plus de 10 ans par l'OTAN a été confirmée à la fois, excusez du peu, par l'ancienne chancelière allemande Angela Merkel, qui rappelait que l'objectif des accords de Minsk était de gagner du temps pour armer l'Ukraine, et par Jens Stoltenberg, secrétaire général de l'OTAN, qui faisait remonter cette politique à bien avant 2014-2015, conférence de presse après la réunion de l'OTAN des 14 et 15 février 2023. À cette occasion, un coin a été levé sur l'ordre du jour du prochain sommet de l'OTAN en juin 2023 à Vilnius et la proposition qui sera faite d'assouplissement important dans les règles permettant son intervention armée. La prise de conscience par nos concitoyens des mensonges masquant la réalité de cette guerre progresse. Le nombre relativement faible des manifestants du 25 février 2023 à l'appel des associations ukrainiennes et de leur soutien pour augmenter la fourniture d'armes à ce pays en grande souffrance le montre. La grande pression exercée la veille dans la presse officielle et officieuse pour que nous nous associons le lendemain aux bellicistes a cédé la place à un silence quasi total le samedi soir et le dimanche sur la faible mobilisation observée. Et pas un mot dans la presse nationale sur les 50 rassemblements pacifistes en France à l'appel du mouvement de la paix pour exiger un cessez-le-feu immédiat, l'arrêt des fournitures d'armes aux belligérants et l'ouverture de négociations de paix. Ni sur celles qui se sont déroulées en Europe le même week-end. Par contre, la presse régionale s'en est souvent fait l'écho. Fort des résultats obtenus, nous continuerons à nous mobiliser pour que cessent toutes les guerres actuelles dans le monde pour des négociations de paix sous l'égide de l'ONU et contre les livraisons d'armes, et que le traité sur l'élimination des armes nucléaires soit ratifié et appliqué.
Jean-Yves Gallas, participe à de nombreuses manifestations avec nous contre la guerre, notamment en Ukraine, mais aussi pour le traité d'interdiction des armes nucléaires. Mais tout d'abord, le poème de Mona.
Et moi, après tout ça, il y a l'espoir que... Tous les côtés peut-être peuvent négocier d'éviter une guerre, et sans doute il y a une guerre civile sur place, parce que la guerre n'est pas si facile que ça, n'est pas entre deux armées, non, c'est plus que ça, c'est plus que ça. Donc je veux lire l'espoir. La nature s'éveille. C'est le langage de la seconde des naissances. C'est la vie qui continue. L'espoir s'effader de son geôlier espoir. J'aime ta rigueur calme, ton silence, ton sourire. L'espoir est un être sage au milieu des fous. Quand on ouvre la fenêtre pour respirer l'air, le sourire d'un enfant, la caresse d'un chat, au premier cri de l'accouchement, au premier regard d'amour, espoir. Nuance subtile au pays des merveilles, au premier rayon du soleil. Je suis titulaire de la terre, enfant hérité des rituels. Adolescent, je cherchais l'existence de là-haut. Adulte, je n'y crois plus. Espoir, c'est le temps de réfléchir sur les œuvres morales, nourrir les affamés, sauver l'homme pour la survie de bien commun. Vous qui souffrez, venez à l'espoir, car il sourit. Vous qui passez à l'état de détresse, venez à lui, car il demeure le seul remède. Espoir, je te parle sans la gloire, mais il n'est pas question de vivre sans espoir. Espoir, je ne veux pas te dire hello et goodbye. L'orage s'en va et le beau jour arrivera. Quand l'obscurité s'éteint, la lumière s'allume. voilà, Salma ya Salama, Rohna Ougina bis Salama. Cette chanson d'un grand poète égyptien, Salah Jahin, qui naît le 25 décembre 1930. Mais d'après une chanson populaire de Sayyid Darwish, qui est né à Alexandrie en 1919. En français, c'est aussi une chanson très belle, traduite par Pierre Delanoë. La chanson « Salma ya Salama »,« Nous sommes allés et revenus dans la paix ». Cette chanson est très très populaire en Égypte. Quand on monte, par exemple, dans le train, des amis entre nous, étudiants de l'université qui viennent de Ilménia, Assiout, Sohag, la Haute-Égypte, on monte pour chanter professeur et étudiant Salma ya Salama, Rohna Ougina bis Salama. Très connu aussi quand les bus scolaires, aussi les petits enfants, comment ils sont formidables quand ils chantent Salma ya Salama. Et aussi notre Dalida, la vedette, la diva, quand elle chante Salma ya Salama en arabe. Merci.
Merci à vous.
Voilà, voilà.
Alors, vous, dans votre poème que vous avez lu tout à l'heure, Mona, apparaît un vers qui parle de l'accouchement. Où vous dites « Au premier cri de l'accouchement, au premier regard d'amour, espoir ».
Oui, c'est l'espoir. L'espoir. À la vie, le bonheur, oui. Et rencontrer l'autre, soit femme, homme, enfant,
tout à fait.
Chat,
tout à fait.
Oui,
tout à fait.
Voilà, cri d'un bébé qui, oui. qui sort de à la vie, c'est de l'espoir.
Oui.
Comment il est beau, comment il crie, c'est-à-dire il est en bonne santé.
Oui, mais moi, personnellement, ce vers m'a interloquée parce que j'ai préparé pour aujourd'hui une réflexion sur le long processus historique des progrès de la médecine autour de l'accouchement.
Ah.
L'accouchement, dans le passé lointain de l'humanité, était un événement ultra sanglant
oui.
pour les femmes et pour les enfants humains. Nous pouvons comparer cette évolution à travers les millénaires au processus encore plus long des multiples étapes traversées par les stratégies militaires. À travers notre sanglant passé, d'innombrables guerres. Dans la préhistoire, la femme mourait en général au cours de l'accouchement.
Et parfois l'enfant aussi.
Le nourrissant, souvent aussi. Parfois la femme est en même temps que l'enfant. C'était une des raisons d'ailleurs de la polygamie masculine, considérée alors comme nécessaire à la survie du clan. Bon, mais ce n'est pas il y a un siècle, il y a un millénaire, il y a bien, bien plus longtemps. Peu à peu, avec les progrès du raisonnement humain et de l'expérience et des connaissances médicales, modeste à l'époque, mais néanmoins connaissance médicale, les humains parvinrent à sauver l'enfant et même la future mère, la femme. Mais même aujourd'hui encore, la mortalité est loin d'être négligeable parmi les femmes enceintes, les embryons, les nourrissons et même les enfants en bas âge, mais pour des raisons de mauvaise hygiène de vie, pour la guerre, des famines, etc. Aujourd'hui, nous devrions envisager les violences guerrières et militaires un peu sous cet angle historique d'une victoire sur la mort. Une victoire sur la mort prématurée. Grâce à l'évolution des savoirs et grâce aux méthodes de pacification négociées entre groupes et États concurrents pour les ressources vitales et réputées valorisantes et profitables. L'enfant, il vient au monde, il crie, comme vous venez de
oui.
dire, Il est en vie, en bonne santé, mais ça ne va pas du tout de soi.
C'est un signe.
Un espoir qui n'est jamais mort.
Oui, exactement.
Dans l'esprit des humains.
Oui.
Et c'est cet espoir qui a fait progresser les connaissances. C'est cet espoir d'une vie meilleure qui nous a permis de surmonter les aléas de notre ignorance, de notre nature sauvage.
Oui.
À l'origine. Oui, la mort prématurée sous les bombes, la mort prématurée sous le feu nucléaire des autres qui aspirent comme nous à une vie meilleure, c'est une concurrence. Cette mort douloureuse prématurée, nous pouvons nous en libérer en développant nos connaissances du fonctionnement humain. Ce sont ces connaissances-là qui nous permettront d'arrêter les bains de sang. Une naissance, à l'origine, c'est un bain de sang. Eh bien, la guerre archaïque, encore de nos jours, elle est un bain de sang.
Oui.
Sans parler des ruines matérielles. On développe donc, nous devons développer nos connaissances sur notre propre fonctionnement. Pourquoi n'arrivons-nous pas encore à endiguer cette violence, ces souffrances, ces bains de sang mortifères? Donc, pour entamer des négociations fécondes, car menées en connaissance de cause, c'est-à-dire en connaissant les causes de nos hostilités, les causes de nos impulsions violentes, qui nous paraissent tellement spontanées, entre guillemets, tellement naturelles. Tout ce qui est humain n'est pas forcément naturel. Tout ce qui est humain, à l'origine, est brutal, violent et nous rend malheureux si nous survivons. Donc, tels sont le but et la difficile tâche des jeunes institutions internationales comme l'ONU. Sentant ces jeunes, comparés à l'histoire de l'humanité, ou les juridictions internationales facilitatrices, en théorie, d'un meilleur vivre ensemble. Mais il est évident que nous sommes encore loin du but. Mais nous devons espérer et travailler à cela. Les institutions étatiques et nationales des uns et des autres rechignent toujours à renoncer à leurs idoles d'hégémonie et de suprématie, drapées d'une sacro-sainte souveraineté qui n'est en fait qu'un cache-misère et un complexe de supériorité bien camouflé. À l'heure actuelle, le but du pouvoir traditionnel est de contrôler par la force, par la technologie, par un certain savoir dominé. Il redoute ce pouvoir traditionnel, le savoir. Il redoute le savoir quand le peuple s'en empare. C'est pourquoi il faut déconstruire les fausses peurs du peuple face à un savoir instrumentalisé et défiguré, dénaturé par le pouvoir des dominateurs, pour ainsi dire illicite, illégitime, puisqu'ils ne respectent pas le droit à la vie des autres humains, dans le but unique de se maintenir au pouvoir. D'où la nécessité pour le pouvoir de recourir à la violence, une pseudo-nécessité, une nécessité barbare. Car au fond, il y a l'ignorance fondamentale que cherche à masquer le pouvoir pour dominer. L'ignorance produit la violence. Cette découverte et ce constat remontent à des millénaires, des philosophes, des penseurs, des théologiens l'ont dit. Parmi les plus grands, Maïmonide et bien d'autres, Rumi et bien d'autres, dans le monde entier, que ce soit le monde de la pensée bouddhiste, de la pensée islamique, la pensée chrétienne, évidemment, qui est plus récente, c'est notre ignorance entretenue savamment, entre guillemets, paradoxalement, par ceux qui s'accaparent le savoir afin de se maintenir au pouvoir. Voilà. L'ignorance, donc je le dis encore une fois, l'ignorance produit la violence. Ultime recours de l'impuissance. Cela montre que la violence qui émane des dirigeants ça témoigne de leur propre ignorance, quelque part. Ils ne détiennent pas le savoir pour vivre en paix tous ensemble, pour l'instant. Mais nous avons l'espoir.
Heureusement.
L'espoir de sortir du bain de sang, comme la médecine nous l'a permis dans les accouchements humains, qui se passent toujours dans le sang.
Oui.
Et pour cela, les petits, entre guillemets, le peuple, la plèbe, entre guillemets, va grandir. Les petits grandiront dans leur tête, en développant leurs connaissances, leurs compétences humaines, si bien qu'ils ne se sentiront plus moins grands que les pseudo-grands. Ils les dépasseront grandement en humanité. Et pour conclure, je voulais juste vous faire part d'une remarque de Christian Renoux, un grand pacifiste aussi. Il a dit: est-ce que vous vous êtes demandé ce que le président Poutine et le président Zelensky pouvaient avoir en commun? Eh bien, c'est leur prénom. Vladimir et Volodymyr sont des variantes russes et ukrainiennes du même prénom qui veut dire qui gouverne par la paix. Comme Frédéric. Friedrich, ça veut dire qui gouverne par la paix, dans les langues anglo-saxonnes, franques, et qui fait régner la paix, Vladimir et Volodymyr. Comment ne pas ressentir l'ironie tragique d'une telle situation?
Merci. Je vais aussi insister sur... une grande affaire dans tous les pays.
Oui.
C'est l'éducation.
Voilà.
L'éducation des petites filles. Et chaque leader féminin, soit en Égypte, soit dans le monde arabe, soit ici, toujours les femmes exigent que les petites filles vont à l'école. Absolument. Et terminent leur éducation,
parfait.
Oui, tout ça. Parce que les droits de l'homme, il faut les comprendre.
Et oui.
Ah, pour réaliser, la mère est un support très, très important. Oui, la maman qui dit à son petit, tu aimes ton
prochain
à l'école, s'il a besoin d'un crayon, tu lui donnes. S'il a, on peut partager le sandwich.
On peut partager le savoir.
Ah, le savoir. Tu l'invites à la maison pendant ton anniversaire. Tu l'invites et vous mangez ensemble et tout ça. Et on donne beaucoup de chance aux pauvres, les enfants adoptés, les enfants perdus, les enfants sans voix. Je vais vous dire un accident grave qui a duré 18 mois en Égypte. Ils ont pris par force le petit Chinouda, 4 ans, de ses parents adoptifs. Oui, et tout le monde, même le peuple égyptien, musulman et chrétien, était pour que le petit retourne à sa famille adoptive. Et moi, j'ai vu la maman, comment elle pleurait. Elle a demandé à tout le monde, le juge, le président de la République, tout. Oui, et enfin, ils ont gagné le procès. Et je veux bien remercier tout le monde, musulmans et chrétiens. Et nous sommes pendant le mois de Ramadan.
Oui.
Et ça, c'est vraiment signe de tolérance. Que le petit Chinouda, un bel enfant comme tout, 4 ans, oui. Ils l'ont obligé à faire Ramadan l'année dernière quand il avait juste 3 ans. 3 ans dans l'orphelinat qui était pourri.
C'est dingue.
Pourri, et ils ont maintenant des procès contre ces orphelinats. Et moi, j'ai visité cet orphelinat et j'ai trouvé une cuillère pour 10 enfants. Oh et 10 enfants bébés. Donc, il faut quand même avoir de recul pour voir les misères de nos enfants, de nos femmes. Oui, tout ça. Là, les mères, moi je suis une mère, et quand j'ai vu Chenouda, j'ai pleuré comme sa maman. Et hier, la chaîne chrétienne a présenté tous les procédures qui ont fait gagner enfin et que le petit Chenouda retourne à sa famille adoptive.
J'ai juste une petite question. Pourquoi cet enfant a été retiré à sa famille adoptive?
C'est une plainte méchante de quelqu'un, parce que la famille qui a trouvé cet enfant riche. Et donc, quand ils ont trouvé cet enfant bébé, ils ont pris cet enfant chez eux, et vraiment, ils l'aiment. Je vois la maman et le papa, comment ils aiment cet enfant. Et quelqu'un, je ne sais pas, de la famille ou autre, je ne veux pas rentrer dans les détails, a dit non, c'est un musulman. Non, ce n'est pas leur fils. Et finalement, des procès, et refusé devant quelques tribunaux, et finalement, et le ministère de la solidarité et l'enfance et tout ça n'a rien fait, mais tous ces gens-là ont...
Une quinte de cause.
Non, ils n'ont pas le droit de faire souffrir un enfant, et ses parents sont là. Ses parents existent, et l'enfant était chez la famille très très heureux. Heureusement, le procès, nous avons gagné le procès. Bravo. Oui, et merci pour les avocats.
D'accord. Alors malheureusement, je dois juste intercaler une information que je ne pensais pas pouvoir vous diffuser. Dans le cadre de la guerre en Ukraine, des centaines d'enfants en ce moment sont enlevés par l'armée russe.
Oui, oui.
Et c'est des centaines, voire des milliers d'enfants sont enlevés.
J'ai vu.
Et c'est vraiment absolument consternant. Et il semblerait que certains parents ont réussi à récupérer quelques-uns de leurs enfants grâce aux associations non gouvernementales anti-militaristes.
Et j'ai un poème pour l'enfant du soleil, c'est-à-dire l'enfant de la Syrie, entre la Syrie et la Turquie. Beaucoup d'enfants ne mangeaient pas à leur faim, dans le froid glacial là-bas, et la chaleur aussi, 50 degrés parfois, leur mère, et pas d'école, ils vivent dans la boue. Ça aussi depuis quelques années, et personne ne bouge.
Peut-être vous pourrez le lire après la pause musicale.
Ah, c'est bien. Bonne idée.
Sans haine, sans armes et sans violence, de résistance en désobéissance. C'est une évidence, nos vies n'ont plus aucun sens, depuis que nos rêves sont indexés sur le prix de l'essence. C'est une évidence, nos vies n'ont plus aucun sens, depuis que nos rêves sont indexés sur le prix de l'essence. La fronde commence sur cette place, ces casques lourds qui nous font face. Nous les défions, folie ou inconscience, sans haine, sans armes, sans violence. Nous sommes d'une espèce non protégée, notre obsolescence est programmée. Nous devons disparaître de leurs étals avant liquidation totale. Nous devons disparaître de leurs étals avant liquidation totale. Sans haine, sans armes et sans violence, de résistance en désobéissance. C'est une évidence, Nos vies n'ont plus aucun sens depuis que nos rêves sont indexés sur le prix de l'essence. C'est une évidence, nos vies n'ont plus aucun sens depuis que nos rêves sont indexés sur le prix de l'essence. Sans aucune condition de ressources, ils voudraient que l'on parte au pas de course, acheter des biens de grande consommation au premier tir de sommation. Que nous leur portions cette marchandise, objet de toute leur convoitise, leur précieux, leur cœur de cible, du temps de cerveau disponible. Oh qu'ils chérissent tant ce cœur de cible, ce temps de cerveau disponible. Sans haine, sans armes et sans violence, de résistance en désobéissance. C'est une évidence, nos vies n'ont plus aucun sens depuis que nos rêves sont indexés sur le prix de l'essence. C'est une évidence, nos vies n'ont plus aucun sens depuis que nos rêves sont indexés sur le prix de l'essence. Prédicateur de la sainte finance, toxicomane accro à la croissance, nous sommes de ceux qui vous désobéissent, la plèbe blasphématrice. Jetez-nous l'opprobre, jetez-nous la pierre, vos grenades suffiraient-elles à nous faire taire? Croyez-vous que nos combats soient périssables, nos engagements jetables? Croyez-vous que nos combats soient périssables, nos engagements jetables? Sans haine, sans armes et sans violence, de résistance en désobéissance. C'est une évidence, nos vies n'ont plus aucun sens depuis que nos rêves sont indexés sur le prix de l'essence. C'est une évidence, nos vies n'ont plus aucun sens depuis que nos rêves sont indexés sur le prix de l'essence. Sans haine, sans armes, sans violence. Sans haine, sans armes, sans violence. Sans haine, sans armes, sans violence. Sans haine.
Alors Mona va vous lire un autre poème.
Les frontières, les frontières. Regarde-moi, je ne veux pas disparaître. Regarde-moi, le soleil me sourit, j'ai de l'espoir. Dans le langage commun, je suis un citoyen important. J'exprime un dialogue de sourde. Répondez-moi, donnez-moi la réplique. Au cœur du monde, je n'existe plus. Mon nom est enregistré sur les vagues, comme mon corps sans trace. Je n'ai aucun désir d'être aimé. Moi, citoyen hors la loi. Ce lieu impossible n'existe pas sur les frontières entre l'humain et son frère. Ce n'est pas dans ce monde où je souhaiterais vivre, ce point limite où il n'y a pas de frontières entre la vie et le néant. Écoutez-moi, prêtez-moi vos oreilles comme vous trichez au Scrabble. Je vous propose la lecture de mon œuvre dans l'histoire d'un jeune homme de l'autre côté de l'histoire. j'ai le privilège d'avoir été au point extrême de symptômes des frontières. J'ai sauvé mon être pour soutenir mon identité après une tentative de désobéissance. Sens. Les mots sont éclatés dans mes yeux quand je vous parle pour exprimer mon existence. Je vous fascine par une œuvre de rose et de miel sur une ultime scène de pages blanches. J'ai crié « Espoir, espoir et encore espoir !» Alors, mon agonie persiste. Regarde-moi pour sauver la terre. Notre camp se réveille entre une scène de mélodie et l'autre dramatique avec les uniformes. Nous sommes d'une complicité harmonieuse, mais ne pouvons pas d'être renouvelés. Nous faisons la prière comme le seul rituel contre le mal. Nous dansons si imprévisible pour chasser les mauvais esprits. Nous sommes des sujets qui se noient, figures oubliées de l'humanité, sans compter nos âmes. Notre univers est traversé par les nuages du doute. Notre seule certitude est l'espoir. Ce rêve du jour comme de nuit, les muses m'ont quitté désespérée par de longues démarches pour respirer l'air. Le rêve n'est pas reproduit par un heureux hasard. Dormir sur le pavé, chercher sa voie au lever du jour, le chaud à la tombée d'une nuit. Je suis Jésus crucifié à la porte de la ville. Le temps ne fait rien à l'affaire. Le cimetière a manqué beaucoup de nos corps affichés inconnus. Si le bon Dieu a voulu ce destin absurde, nous devenons fatalistes devant l'acte accompli. Ma mère, je trace ton sourire sur le sable. Ma mère, je peins ton nom sur les nuages. Mon pays, je grave tes portes dans le rocher de Saint-Michel. J'ai la flamme dans l'âme. J'écris pour combler le vide. J'ai cité les droits de l'homme comme un chapelet sur une page blanche, trop blanche. Liberté, je constate que tu es une œuvre inachevée. Égalité, tu es pourvue durant une courte vie. Fraternité, il faut assurer ta renommée. Peut-être qu'un jour, je lirai l'avenir dans le mer de café. Je crève de faim. J'ai perdu mon chemin et je cherche l'harmonie de ma vie. Ironie, j'ai un infime rayon du soleil. J'imagine une fenêtre et une porte pour me réjouir de l'humanité. Je regarde le ciel et l'éblouissante étoile qui se perd dans la masse. Je suis un vagabond solitaire, prisonnier, cœur saignant, larmes chaudes. Je ne laisse pas se perdre mes illusions. Je ne laisse pas s'éteindre ce feu qui me consume. Cette lumière subtile épuise mon inspiration. Je pars sans porter un regard en arrière. Un jour, mon âme passée redeviendra pour observer mon cadavre dans un musée identique au XXe siècle, dédié à l'homme et son frère, par la résurrection de ces belles âmes. Je vous prie de déposer des gerbes de fleurs et de l'eau parfumée. Mon âme tisse des rêves, raconte notre histoire et m'introduit dans votre univers. Peut-être je peux cultiver la terre, gagner des roses, faire pétrir le pain. Je m'en vais et vous laisse les roses et le pain.
Bravo.
Je vais vous lire un texte qui est sorti sur Mediapart, signé par Claude Lelièvre, historien de l'éducation. C'est à propos du SNU. On sait que Macron veut le rendre obligatoire. Voilà. Après vous avoir lu le texte qui est sorti sur Politis, je vous annoncerai autre chose. Ça. Des antécédents historiques à un SNU devenu obligatoire. Des rumeurs persistantes semblent indiquer que le service national universel qui concerne actuellement dans les faits moins que l'objectif affiché de 50 000 jeunes par an deviendrait obligatoire pour tous dans une formule ramassée, mais tangible, une innovation sans précédent. Dans un article publié le 27 février, Politis indique avoir eu accès à une note interne du ministère de l'Éducation nationale qui indiquerait que l'SNU se compose d'un séjour cohésion obligatoire de 12 jours qui s'effectue en dehors de son département ou de sa région de résidence. Les jeunes seraient soumis au rythme intensif du format actuel du SNU, uniforme, levé du drapeau le matin et chant la Marseillaise, resterait au menu du SNU format obligatoire. Selon Politis, plusieurs modules seraient imposés sur des enjeux liés à la défense, à la sécurité intérieure, à la mémoire, à la transmission des valeurs de la République, SIC. Les encadrants seraient des personnels de l'éducation nationale et des militaires à la retraite. On pense immédiatement à la période ferriste, même si cet antécédent, in fine, peut s'avérer beaucoup moins évident que l'on le croit et finir dans un sens qui donne à réfléchir. Le décret du 6 juillet 1882 instaure les bataillons scolaires. Signe de son importance, ce décret est signé par Jules Grévy, président de la République à ce moment-là. Jules Ferry, ministre de l'instruction civique publique et président du Conseil des ministres, Jean Gobet, ministre intérieur, et Jean-Baptiste Billot, ministre de la Guerre. L'organisation de ces bataillons dépendra toujours conjointement de l'instruction publique et de la guerre. Voici un discours qu'a prononcé Jules Ferry en juin 1882. « La gymnastique est inséparable de l'éducation militaire. Celle-ci est le but, l'autre moyen. Nous croyons que l'éducation militaire ne pénétrera complètement dans nos mœurs scolaires qu'après que l'instituteur soit devenu lui-même un professeur d'exercice militaire. L'article 1er de la loi scolaire de mars 82, 1800 bien sûr, initié par Jules Ferry, inclut les exercices militaires dans les matières obligatoires pour les garçons. On pense que cette inculcation patriotique sera d'autant plus efficace qu'elle se réalise non pas par des discours raisonnés, mais dans des comportements effectifs. Les plus jeunes enfants seront exercés à l'école sous la direction de leur maître aux exercices gymniques et au maniement de fusils. On n'utilise certes pas des balles réelles, mais le souci de mimer la réalité au plus près est très présent. En vue de donner satisfaction à diverses demandes, il a été décidé que les armes employées pourraient à l'avenir être munies d'épées baïonnettes, sous la condition que ces épées auront leur pointe complètement arrondie. Circulaire du 25 mai 1883 de Jean Thibaudin, ministre de la Guerre. Drôlement pratique à l'époque. Ces pratiques sont manifestes à l'époque de l'objet d'un large consensus, aussi bien chez les enseignants que dans l'opinion publique. Mais cette ferveur patriotique militarisée retombe assez vite, d'autant plus que les dirigeants républicains s'aperçoivent qu'elle est susceptible de contribuer à l'exaltation d'un nationalisme militaire, qui peut s'avérer dangereux par la pérennité du nouveau régime républicain lui-même, comme le montre le succès du général Boulanger dès la fin des années 1880. Donc, les nazis, l'extrême droite, qui couvre avec cette obligation de sorte de SNU de l'époque de Ferry. On peut songer aussi aux méthodes possibles durant la période pétiniste, en particulier celui des chantiers de jeunesse. Un service civil obligatoire est institué par la loi du 30 juillet 1940, puis celle du 18 janvier 1941. Dorénavant, chaque citoyen masculin de 20 ans, résidant en zone libre, a l'obligation d'effectuer un stage de 8 mois dans les chantiers. Selon l'instruction du secrétariat à la guerre du 28 juillet 1940, ces jeunes accompliront un service civil qui permettra d'assurer leur cohésion morale par la vie en commun, leur développement physique par des exercices sportifs, des travaux d'intérêt général. Les chantiers ont pour fonction de former les jeunes aux valeurs pétinistes par l'instauration des conditions de vie et d'activité chargées d'accélérer ce processus d'intériorisation idéologique. Le brassage social s'applique au sein de l'équipe, vise à rapprocher et à mélanger des jeunes venant d'horizons différents. Cela implique aussi la mise en place d'une hiérarchie et d'une discipline stricte, comme l'ordonne le commissaire général. Il faut absolument décider à obtenir partout l'ordre, la discipline et la tenue. Tiré du bulletin officiel des chantiers de jeunesse du 5 janvier 1941. Il est tout à fait significatif que le célèbre plan Langevin-Wallon de 1947, conçu et rédigé dans le contexte de la libération, rompt avec cette orientation idéologique en développant certes aussi que c'est par des pratiques et des expériences effectives et non pas seulement par des cours et des discours que l'on peut assurer une véritable éducation civique. Mais dans toute autre option idéologique qui ne met nullement en valeur quelque nationalisme que ce soit, et encore moins quelque subordination que ce soit. L'éducation morale et civique n'aura sa pleine efficacité que si l'influence de l'enseignement proprement dit se complète par l'entraînement à l'action. Le respect de la personne et des droits d'autrui, le sens de l'intérêt général, le consentement à la règle, l'esprit d'initiative, le goût des responsabilités ne se peuvent acquérir que par la pratique de la vie sociale. L'école offre aux enfants et aux adolescents une société à leur mesure, où ils vivent au milieu de leurs pairs. L'école devra donc s'organiser pour leur permettre de multiplier leur expérience en leur donnant une part de plus en plus grande de liberté et de responsabilité dans le travail de la classe comme dans les occupations de loisirs. Chaque citoyen en régime démocratique est placé devant la vie professionnelle en face d'une double responsabilité. Responsabilité du dirigeant, responsabilité de l'exécutant. Il sera donc nécessaire que les activités scolaires s'organisent de telle sorte que tous aient alternativement des responsabilités de direction et d'exécution. Il importe en effet d'éviter de cultiver en certains l'absolutisme du chef prédestiné et en d'autres l'habitude paresseuse d'une aveugle soumission. Eh bien, il faut dire, 75 ans après, éviter de cultiver en certains l'absolutisme du chef prédestiné et en d'autres l'habitude paresseuse d'une aveugle soumission devrait apparaître plus que jamais à l'ordre du jour. Et on sait qu'actuellement, Macron a reculé sur un seul point. Il voulait que ce soit obligatoire le SNU et il a dit que ce ne sera plus obligatoire. Vraiment, s'il avait pu faire la même chose avec le 49-3 qu'il a imposé pour la retraite, eh ben, il se serait peut-être remis un petit peu au-dessus de la marée. Et là, il est complètement en train de s'étouffer. À vous.
Merci Ariel pour ces informations. Oui. Et c'est donc une très bonne nouvelle que le SNU n'est plus obligatoire. Bientôt, le 49-3 sera également aboli parce que nous serons en 6e République.
Ah, 6e, d'accord.
6e République. Parce que nous sommes niqués par les armes nucléaires et par les armées. Oui, les armes nucléaires nous niquent. C'est une question de fric.
Voilà.
Ah.
Ah.
De l'universelle patrie puisse venir le jour rêvé de la paix, de la pêcherie. Le rameau sauveur élevé, le rameau sauveur élevé. On entendra vers les frontières les peuples levant les bras crier, il n'est plus de soldats. Soyons unis, nous sommes frères. Plus d'armes, citoyens. Rompez vos bataillons, chantez, chantons, et que la paix féconde nos sillons. Debout pacifique, cohorte, homme des champs. N'ayez plus peur, ouvrez vos portes au trésor, fruit des libertés. Au trésor, fruit des libertés. C'est trop de siècles de souffrance, de haine et de sang répandu. Humain, quand nous l'aurons voulu, sonnera. Rompez vos bataillons, chantez, chantons, et que la paix féconde nos sillons. Plus d'armes, citoyens, rompez vos bataillons, chantez, chantons. Que la paix féconde nos sillons.
Cette chanson a été interprétée d'après cette chanson qui est basée sur le texte de Rouget de Lille, bien sûr, la Marseillaise, mais avec des paroles extrêmement pacifistes. C'est le groupe Chanson plus Biofluoré. On l'a connu avec Elsa lors d'un spectacle dont Laurent Garibian nous avait prêté le DVD de Pascal Forcioli. C'était pour conclure.
Philippe Forcioli, Philippe Forcioli.
Excuse-moi. Philippe Forcioli. Voilà. Donc, je tenais absolument, après le texte du SNU, je tenais absolument, après le texte du SNU, de passer cette chanson-là. Parce qu'elle est de mise, et on devrait plutôt, là, maintenant, la changer pour la faire chanter par les enfants à l'école. Là. À vous.
Oui, c'est beau, c'est beau. Oui. On me rappelle, les cerises arrivent sur l'arbre en mars. Le printemps apporte ses fruits rouges en plein soleil. Les bébés gambadent dans la nature, on me rappelle. Où sont passés nos rêves? Ils sont cachés derrière la montagne, dispersés dans la forêt. Ils hurlent dans la ville bruyante, brûlante, sans existence. On me rappelle où est l'être humain. Il erre sans rêve, a peur de l'autre. Oui. On me rappelle où se cachent les oiseaux. Il rêvait d'un nid sur l'arbre, arraché par un coup de hache. On me rappelle où sont les corbeaux. Ils changent leur logis d'un endroit à l'autre sans stabilité. Ils souffrent de racisme parce que leurs plumes sont noires. On me rappelle où sont les hippopotames. Ils sont assassinés pour orner les poitrines des femmes, comme d'autres espèces de la mer, pour leur vertu aphrodisiaque. On me rappelle où sont les poules. Le chant du coq n'a pas protégé ces poules de laboratoire. Comment fait-on pour suspendre le temps de la haine? Que faire? Accepter l'impunité des bourreaux? Ce sont des images exotiques, ornées de rires. On me rappelle, Aphrodite surgit de l'écume de mer. Elle se trouve à Rhodes. Dans la ville, elle tourne la tête pour chercher ses retrouvailles. Apollon nous invite à l'imaginaire, aventure pour transformer le destin. L'aphasie est un combat en mots doux. C'est un sacré avertissement. On me rappelle, c'est l'apocalypse. Non, non, osez la provocation.
La provocation de Gandhi.
Oui.
Vivons simplement, afin que d'autres puissent simplement vivre. Parole du Mahatma.
Nous sommes collectivement, planétairement et individuellement, toutes et tous, à un tournant vital de la civilisation humaine. Non seulement nos systèmes économiques et sociaux doivent changer pour éviter la catastrophe annoncée de toutes parts, nous, toutes et toutes, devons changer pour remédier à nos dangereux dysfonctionnements relationnels. Il s'agit de notre survie en tant qu'espèce, pas seulement d'améliorer nos conditions de vie. Comme le chantent les poètes tels HK dans ses chansons, c'est une évidence, nos vies n'ont plus aucun sens depuis que nos rêves sont indexés sur le prix de l'essence.
Cessons de croire les boniments publicitaires toxiques qui nous vantent une consommation monstrueusement pathologique, nous rendant accros et dépendants des plaisirs faciles. Le bonheur a un autre prix. On n'achète pas le paradis. Vivre simplement n'a rien à voir avec vivre pauvrement. La misère, elle est loin d'être simple et facile. La misère ne rend pas heureux du tout. L'idée de pauvreté qu'une culture donnée se fait de l'absence d'abondance correspond au degré d'ignorance ou bien au niveau de connaissance collective sur la nature humaine et de notre propre fonctionnement. toutes les souffrances des travailleurs les plus défavorisés, jusqu'aux artifices des couches sociales aisées, dites favorisées, aboutissent à un même résultat. En dépit d'apparences brillantes, de richesses matérielles accumulées, dans l'injustice et le crime, la vie est vécue pauvrement, pauvrement par toutes et tous, au sens d'une humanité étriquée, d'une humanité gauchie et obscurcie, même dans les plus hautes sphères publiques. La vie sociale entière est un immense simulacre de bonheur.
Gandhi nous enseigne la vraie recette du bonheur humain. Vivons simplement afin que d'autres puissent simplement vivre. Il en a donné l'exemple tel un souverain philosophe qui ne se prend pas pour un pacha omnipuissant. Vivre simplement ne signifie pas vivre misérablement. Ceux qui méprisent les pauvres et se vautrent dans l'opulence, eux vivent bien misérablement. Toute misère humaine est avant tout une misère morale basée sur la méconnaissance de nos vrais besoins pour connaître la joie de vivre et de travailler en bonne santé physique et mentale. Même si les élites peuvent s'accaparer des connaissances scientifiques hors de portée des masses, leur inconduite irrespectueuse des lois fondamentales de la vie les plonge dans les mêmes marasmes des tourments et maladies psychosomatiques que subissent les pauvres. Ils peuvent juste mieux les retarder et les masquer. Le nationalisme, les colonies, les guerres impérialistes sont quelques-uns des plus criminels subterfuges de cet esprit meurtrier qui se cache parfois derrière les lois les plus sacrées. Travaillons à mieux comprendre les ressorts et fonctionnements de notre nature humaine pour devenir, à l'image des obstétriciens modernes, capables d'éviter les bains de sang et la mort de tous grâce à l'apprentissage de nouvelles attitudes éclairées, vigilantes mais ouvertes et à l'écoute de celles et ceux qui nous font face. Soyons le changement.
Ah, le changement.
Thank you.
Voilà, cette chanson de la diva Fayrouz, la Libanaise, d'après le grand poète Gibran Khalil Gibran, 1918. Donnez-moi le naï. Le naï, c'est une flûte du Nil, mais il y en a d'autres naï aussi, genre de naï. Et chanté. Donnez-moi le naï et chanté par Fayrouz. Et ce que Gibran Khalil Gibran veut nous dire, que la paix, si on chante, si on joue de la musique, et le naï est très connu dans la société populaire. n'est pas comme la musique classique qui est connue seulement par la société bourgeoise, comme l'opéra et tout. Il propose à l'autre, un citoyen ou un ami, il lui pose la question. Est-ce que tu as passé des nuits dans la forêt et tu as délaissé les châteaux et tu as grimpé les pierres? Est-ce que tu as pris un bain d'un bain parfumé? Et encore, tu as essuyé ton corps avec la lumière. Est-ce que tu as bu Khamran, c'est-à-dire le whisky, dans des caisses du vent? Est-ce que tu as fait une promenade l'après-midi, comme moi, et tu as observé les champs les champs du raisin, et tu as vu comment les raisins, comme des lustres, c'est beau. Est-ce que tu as délaissé ce qui est luxe dans la vie? Et tu as oublié le passé, parce que comme tu es riche ou tu as une vie aisée, et tu as, c'est-à-dire, regardé les pauvres, les sans-voix, le naï exprime le douleur sur toute la vie. Et il dit, c'est comme le mystique qui laisse la ville et qui va très loin pour vivre dans le Sahara, le désert, oui, et qui contemple le monde. Et ça, c'est la justice des cœurs. Quand tu chantes et tu joues le naï, tu oublies les souffrances et leurs remèdes. Tu n'as pas besoin. Voilà. Et ces lignes, il dit, ces lignes étaient écrites par de l'eau. Par de l'eau, oui. Voilà. Merci. Bien sûr, l'eau parfumée. Merci. Oui, voilà. Donc, c'est plus beau, bien sûr, que la traduction, comme ça, simultanée.
L'interprétation.
Mais c'est beau, c'est beau. Les deux premières phrases, donnez-moi le naï, oui. Et chantez.
Oui.
Et chantez. C'est moi qui joue le naï, et toi et vous. Chanter. Voilà,
oui.
Voilà.
Oui.
Et tu imagines le paradis loin de ce monde plein de...
Qui est dans ton cœur.
Exactement, exactement. C'est beau. Khalil Gibran, il est né en 1918.
Eh bien, un an après la naissance de Khalil Gibran, en 1919... Qui est né? Un grand révolutionnaire de la paix, futur président de l'Afrique du Sud. Maintenant, vous savez de qui il s'agit.
Ah oui, oui, oui.
De Nelson
Mandela.
Mandela,
oui,
est né, oui. En 1919.
Ah oui,
voilà.
Oui.
Voilà. Et c'était aussi un homme qui a été très marqué par le message du Mahatma Gandhi.
Ah oui.
Qui disait,
oui,
que la violence n'engendre que la violence. C'est un cercle vicieux. L'intelligence humaine, elle peut se développer pour en sortir. Mais ce n'est pas facile.
Oui.
La guerre est facile. taper, cogner, c'est facile. Réfléchir au mot juste pour apaiser l'autre, ça demande beaucoup d'efforts. C'est difficile, mais ce n'est pas impossible.
Exactement. La paix est très compliquée.
Oui.
Et je veux dire, en 1919, en Égypte, il y avait la révolution et on l'appelait vive le croissant et la lune ou quelque chose comme ça, et vive les Coptes, il y avait deux leaders, un copte et un musulman.
Ah oui.
Voilà.
Ah oui.
Et les deux pachas, et j'ai rencontré la famille de Makramai Bey, le grand Makramai Bey, c'est un copte, ici en France.
Super. Alors, il nous reste une petite dizaine de minutes avant la fin de l'émission.
L'amour. Ah.
Vous voulez lire encore un poème ?
Exactement.
Sur l'amour.
Oui.
Ah oui. Et est-ce qu'éventuellement avant ?
Oui.
Mona, il n'y aura pas le temps.
Mona dit son texte et après on va être obligé de rendre l'antenne.
Oui, donc,
vas-y, dépêche-toi.
Il reste
5 minutes.
Demain, c'est ton livre.
Tenez.
Merci.
Voilà.
Allez-y, Mona.
Demain, je traverse le chemin avec toi, main dans la main. Je t'accompagne au jardin de mille fleurs. Tu m'embrasses sur la joue. Je sens ton odeur, ton parfum et tes souffles. Je rentre chez moi pour rêver de ta présence aux côtés de mon âme. Je chante l'amour, sentiment noble, pour toi et pour la vie. Dansant ensemble, je sens ton corps et la chaleur de tes mains. Tu choisis le passage et tu m'amènes au paradis imaginaire. Nous restons l'un à côté de l'autre pour contempler les couples des oiseaux. Tu m'offres un bouquet pour la Saint-Valentin, des roses de ton choix, rouges comme l'amour, vertes comme la vie. Tu dédicaces tes poèmes de cœur et tu signes mon nom. Tu réponds à mes appels avec tes mots et tes questions. Je te fais signe de mes nobles sentiments. Tu prends ma main cachée dans tes mains, ma tête sur ta poitrine. Tu récites tes poèmes à une femme inconnue. Je signe ton nom sur le lac d'un château. L'eau coule pour te retrouver dans la ville. Nous dînons aux chandelles. Tu sens la chaleur de mon cœur. Donnez-moi ta main chaude. Nous partons ensemble, les yeux dans les yeux, signés d'amour et de tendresse. Et demain, je me souviendrai de tes paroles, de tes fleurs, de tes mots, de tes battements de cœur et les traces de notre chemin. Et demain, l'amour témoignera de notre ivresse, et c'est elle qui portera notre amour. Et demain, encore et encore, le silence parlera pour dire « je t'aime ».
Merci beaucoup, Mona. Et bien que l'amour nous éclaire et nous rende plus intelligents et moins guerriers. Merci aux auditeurs. Notre émission touche à sa fin. Merci beaucoup de votre présence, très chère Mona. Merci beaucoup à Elsa.
Aussi. Merci à toi aussi, Suzanne.
Et merci infiniment à Ariel d'avoir organisé tous ces merveilleux morceaux de musique pour nous.
L'Union Pacifiste
vous invite, oui. Oui. L'Union Pacifiste était très honorée.
Merci,
votre présence.
Merci. Et moi aussi, je suis honorée par vous les trois. Et nous avons une soirée poésie et musique sous le thème Alexandrie, amour et beauté. Nous sommes les rencontres des poètes pour la paix le mardi 16 mai à 18h30 avec les poètes de la paix et au Centre culturel d'Égypte. 111 bis boulevard Saint-Michel, 75005 Paris, RER Luxembourg, bus 38, avec les grands musiciens Marie-Claude Bontini, violoncelliste, David Braslavski, pianiste. Vous êtes les bienvenus. Entrée libre et gratuite. Merci pour les musiciens, merci pour les poètes et merci pour vous.
Merci à vous et peut-être à une autre fois.
Merci.
Le combat continue.
Oui. Autrefois sur la beauté, les sentiments, la passion, voilà.
Par autorisation spéciale de la commission du même nom, la Java des bombes atomiques.
Mon oncle, infâme bricoleur, faisait en amateur des bombes atomiques. Sans avoir jamais rien appris, c'était un vrai génie, question travaux pratiques. Il s'enfermait toute la journée au fond de son atelier pour faire ses expériences. Et le soir, il rentrait chez nous et nous mettait en transe en nous racontant tout. Pour fabriquer une bombe à mes enfants, croyez-moi, c'est vraiment de la tarte. La question du détonateur se résout en un quart d'heure, c'est de celle qu'on écarte. En ce qui concerne la bombache, c'est pas beaucoup plus vache, mais une chose me tourmente, c'est que celle de ma fabrication n'ont qu'un rayon d'action de 3,50 m. Il y a quelque chose qui cloche là-dedans, j'y retourne immédiatement. Et là, bossé pendant des jours, tâchant avec amour d'améliorer le modèle. Quand il déjeunait avec nous, il dévorait d'un coup sa soupe au vermicelle. On voyait à son air féroce qu'il tombait sur un os, mais on n'osait rien dire. Et puis un soir pendant leur parle, un tonton qui soupire et qui s'écrit comme ça. À mesure que je deviens vieux, je m'en aperçois mieux, j'ai le cerveau qui flanche. Soyons sérieux, disons le mot, c'est même plus un cerveau, c'est comme de la sauce blanche. Voilà des mois et des années que j'essaye d'augmenter la portée de ma bombe. Et je ne me suis pas rendu compte que la seule chose qui compte, c'est l'endroit où ce qu'elle tombe. Il y a quelque chose qui cloche là-dedans, j'y retourne immédiatement. Sachant proche le résultat, tous les grands chefs d'État lui ont rendu visite. Il les reçut et s'excusa de ce que sa cagna était aussi petite. Mais sitôt qu'ils sont tous entrés, il les a enfermés en disant « Soyez sages ». Et quand la bombe a explosé, de tous ces personnages, il n'est plus rien resté. Quand on devant ce résultat ne se dégonfla pas et joua les andouilles, au tribunal on l'a traîné et devant les jurés le voilà qui bafouille. Messieurs, c'est un hasard affreux, mais je jure devant Dieu, comme mon âme et conscience, en détruisant tous ces tordus, je suis bien convaincu d'avoir servi la France. On était dans l'embarras, alors on le condamna et puis on l'amnistia. Et le pays reconnaissant, l'élut immédiatement chef du gouvernement.